On va finir par le dernier titre qu'on a choisi, qui s'appelle, qui est un drôle de titre, qui s'appelle L'Affabulateur. L'auteur, c'est Jacob Wasserman. Et c'est un petit éditeur qui s'appelle La Dernière Goutte, qu'on ne connaît pas forcément. En fait, c'est un ouvrage qui date, puisque l'auteur est né en 1899, donc il est début du XXe. Je crois que le livre n'est jamais paru en France, n'a jamais été édité, ouais. Et c'est une première traduction.
1926, la publication en Allemagne.
En Allemagne, oui.
On peut dire quand même que Wasserman est très connu.
Jacob Wasserman est connu pour d'autres titres. Livres. Il a écrit surtout l'affaire Mauritius et puis Jacob...
Gaspard Hauser,
voilà. Alors, moi, je vais démarrer sur la page d'ouverture du site de l'éditeur, parce que je vous encourage à y aller, évidemment. On trouve ceci, c'est quelques mots. « La dernière goutte aime le verbe... » C'est le nom de la maison d'édition, « La dernière goutte ». Aime le verbe, les mots, ce qui claque, ce qui fuse, ce qui gifle et qui griffe et qui mord, les contes cruels, les dialogues acides et les images aussi irréelles, contrastées, vénéneuses et absurdes. La dernière goutte met en selle des rêves éveillés qui assurent la réalité d'un sentiment d'étrangeté. Elle défend des textes aux univers forts, grotesques, bizarres ou sombres. Les romans et nouvelles qu'elle publie reflètent la beauté qui miroite dans l'ombre. Et finalement,
vaste programme,
mais je trouve que ce texte-là de Wasserman s'inscrit à merveille dans le programme.
On est d'accord.
Je vais vous laisser si vous voulez raconter l'histoire. Moi, je ne m'y lancerai pas. Et je suis pas sûre que ce soit important finalement qu'on dise dans le détail. Mais c'est une sorte de un conte avec une mise en avant d'un conte dans un conte.
Il faut quand même donner juste un peu d'éléments de narration.
Très court.
Donc ça se passe au XVIIe siècle dans une petite ville d'Allemagne, en pleine hystérie inquisitoriale, où la grande mode de l'inquisition à l'époque, c'est la chasse aux sorcières. Pas seulement en Allemagne, mais là en l'occurrence en Allemagne. Mmh. Allemagne catholique, la partie catholique de l'Allemagne, c'est très important pour la suite. Quelques personnages centraux vont s'affronter, se rencontrer. L'affabulateur, donc le titre du roman.
Il s'appelle Ernest.
Au moment où on le prend, il est adolescent. On a quelques éléments sur son enfance qui viennent comme ça un peu à la marge. Et il est le neveu de l'évêque qui, dans la ville d'à côté, est chargé de faire régner la loi de l'Inquisition.
C'est long.
voilà, le décor est planté.
Un autre élément qui veut dire, c'est que Ernest est un conteur incroyable.
Affabulateur.
C'est un conteur extraordinaire. Il faut quand même le dire, ça.
Bien sûr.
C'est quand même la clé.
C'est ce personnage, Ernest, jeune, tout jeune, qui raconte des histoires,
une séduction qui raconte quasiment irrésistible, grâce à son art de raconter.
En fait,
des histoires.
Il a eu une enfance, une éducation très libre. En fait, personne vraiment s'est tout à fait attaché à s'occuper de lui. Ses parents sont partis de ci, de là, mort ou parti. L'évêque ne s'est jamais, son oncle ne s'est jamais préoccupé de son sort, jusqu'à ce que effectivement, il apprenne
La réputation, en fait. La réputation, c'est ça qui est très important. C'est la réputation de conteur
qui se diffuse, et ce que disait Géraldine, du pouvoir de séduction qu'il a à travers ses contes.
Je crois qu'il y a une expression, il en sorcelle les cœurs.
C'est
qui est dans le livre.
Moi, je trouve que ça fait des échos à le joueur de flûte, Hans, c'est ça?
Oui, bien sûr.
On voit ça.
C'est comme ça qu'on s'imagine, en fait.
Exactement.
Mais aussi
avec son petit bonnet.
Aussi à cause de la fin du livre, où les enfants vont avoir une importance.
Bien sûr. Mais ça, c'est tout cet aspect-là du conte, où on voit aussi toute une tradition. C'est effectivement le XVIIe siècle. Moi, je me le figurais beaucoup au Moyen-Âge.
Le XVIIe siècle, réécrit par Wasserman, il se trouve que pour des raisons historiques, effectivement, parce que l'Inquisition qui s'attaque à la sorcellerie ou à la supposée sorcellerie date de cette époque-là. En réalité, effectivement, comme on est dans un univers de contes, les contes que raconte l'affabulateur sont des contes populaires qui empruntent au Moyen-Âge, à toutes les époques, qu'il réinvente à mesure, et en réalité il y a le livre lui-même de Fabulateur baigne dans une espèce d'halo anhistorique presque.
Mais du coup c'est l'occasion, parce qu'il raconte
fantasy.
Ah oui, peut-être.
Tu es trop loin.
Ouais. Là, je suis partie. Là, on est. C'est inquiétant.
Non, mais, non, non, mais dans ce monde. C'est un moyenâgeux, tu vois, qui est très. Oui, voilà.
Mais après, il n'y a pas de créature. Il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de décret. En dehors de celui de raconter les histoires qui serait le super pouvoir majeur.
Il y a quelque chose de la superstition, il y a quelque chose du mythe, un peu de superstition. Parce qu'en plus, du coup, il nous raconte. Parce que ça, c'est fabuleux. Tous ces récits.
La superstition à l'origine, la superstition qui est intéressante. Notamment le chapitre qui présente l'évêque, donc son oncle, et qui explique. Sa violence et sa virulence à combattre les sorcières. Tout ça a pour origine la peur, une peur absurde, irrationnelle, une peur de tout.
C'est-à-dire qu'il y a vraiment. Ça m'a fait penser à un bouquin moi, que j'avais lu, qui était un livre d'un grand historien français, je crois qu'il vit toujours, qui s'appelle Jean Delumeau, qui est un grand chrétien, et ça s'appelait, ça s'appelle toujours Le péché et la peur. Et il raconte l'histoire de France. Globalement, à travers ces deux axes, c'est très école des annales, des sciences sociales, voilà. On a deux grands axes forts. Comment une société se construit à faire ces deux trucs puissants, le péché et la peur. Mmh. Et il vous raconte, alors c'est très documenté, des fois un peu ennuyeux, dans ce grand bouquin, il fait près de 1000 pages, c'est un bouquin terrible. Mais on a le contexte qu'on retrouve dans le texte de Wasserman.
Il faut dès maintenant, à mon avis, dire quand même qu'il y a un pivot dans cette histoire, parce que là, on est en train de présenter un peu le contexte général. C'est qu'au-delà du personnage de l'évêque, il y a une éminence grise. Qui est jésuite, peut-être. Qui est jésuite, je crois. Oui. Et qui décide, c'est lui qui va décider ou suggérer à l'évêque que son neveu, ce jeune conteur brillant et qui séduit les cœurs, est un sorcier. Et que le roman en fait va se jouer, l'enjeu du roman va se jouer aussi dans cette lutte à mort, parce que pour le coup c'est une question de vie ou de mort, entre personnages auxquels l'évêque est attaché puisque c'est son neveu et auquel il s'attache. Entre la séduction qu'exerce ce personnage sur lui-même et la mission qui est la sienne, c'est-à-dire de pourchasser les sorciers, et savoir toute la question juridique du point de vue de l'Inquisition est-ce que la déformation de la vérité, est-ce que la fabulation, est-ce que le travail d'imagination sur les faits, sur les choses, relève de la sorcellerie? Alors, c'est là la question. Et ça, c'est vraiment fabuleux. Donc voilà, le pivot, on va dire, dramatique du roman,
personnage dans l'ombre, le second de l'évêque, qui a un rôle qui est présenté de façon très sombre, très noire, qui fait un peu le méchant de l'histoire, et qui tire l'éminence grise.
On a une réflexion qu'on retrouve dans d'autres romans, d'ailleurs, de notre façon, qu'on a ça chez Candide de Voltaire. Comment la religion, tout d'un coup, qui a tout pouvoir d'organiser la façon de penser, d'organiser les choses comme ça, quand quelqu'un qui a un don, et pas forcément, et en plus, s'il n'a pas le don de Dieu, donc c'est automatiquement le mal. Et là, on a vraiment ces questions-là qui sont des questions que la religion met en place pendant. Continue d'ailleurs, mais on voit bien le côté un peu. Vraiment, le titre est magnifique. L'affabulateur. Quand on dévie tout d'un coup de la norme, du dogme, ou de choses comme ça, auquel qui nous a tellement pénétré, c'est automatiquement le diable. Et il faut se trouver en plus le bouc émissaire correspondant. C'est ça qui est...
En creux, Wasserman donne vraiment une définition de ce qu'est la littérature. C'est-à-dire que lui, il faut quand même préciser le contexte. Wasserman a quand même été un des hommes qui a été le plus brûlé, enfin dont les livres ont été le plus brûlés pendant la période nazie. Et qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a prouvé très très directement le pouvoir de subversion qu'était la littérature dans un régime totalitaire. Alors là, c'était la montée du nazisme dans les années 30 en Allemagne. Il se trouve que, je pense que, c'est pas seulement sa théorie, mais le fait de dériver l'histoire au Moyen-Âge ou au 17e siècle pour dire que la littérature, l'Inquisition ne peut pas accepter la littérature. Et pour quelle raison, on ne peut pas l'accepter? Ça, c'est absolument passionnant, vraiment.
C'est assez classique.
Ouais. C'est classique, mais il faut passionnant.
C'est remarquablement écrit, c'est remarquablement mené, et que le livre culmine... Dans une scène d'émeute qui se met en place assez tôt
finalement. Dans mon souvenir, c'était à la toute fin. Et en fait, elle démarre assez tôt parce que ça monte.
Il y a un climax à la fin, le secret sur la fin de ce livre,
à mon avis.
En tout cas, c'est vraiment un livre qui monte en intensité comme ça.
C'est vrai, ce que dit Quentin est assez c'est assez juste. D'ailleurs, c'est vraiment le conformisme qui lutte un peu contre la liberté. C'est la poésie, la littérature contre le politique. Je veux dire, on a
du pouvoir politique,
J'irais jusqu'à dire la subversion du désir, d'une forme de désir. Parce que quand même, ce qui se passe à la fin du livre, c'est que la relation entre cet évêque et ce jeune garçon, excusez-moi, mais on frôle quelque chose de très, très, très tendu.
Mais elle est par l'évêque qui, justement, lui, ne peut pas prendre cette séduction et l'accueillir.
Cette puissance de la parole réveille le désir, c'est un classique, on connaît, mais voilà. En tout cas, c'est très, 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 très joliment exprimé.
D'ailleurs, moi, j'ai retrouvé cette idée de la littérature, un peu de la puissance qu'elle peut avoir, et de subversion, et de réflexion et compagnie, dans... ça m'a fait penser au Maître et Marguerite. Maître et Marguerite, c'est vraiment le propos fort, de se dire la littérature, c'est au-dessus de tout, quoi. À un moment donné. Et là, il y a vraiment ce côté-là. C'est très juste ce que tu dis. C'est vrai que ça ne m'avait pas percuté au premier abord. Et c'est très juste.
Et là, maman, ça s'est révélé. Les personnages secondaires sont très beaux. Enfin, moi, je les aime beaucoup. La nounou qui est sourde et muette. Le précepteur un peu erratique et puis qui se révèle un peu. La mère qui est un peu
Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un texte assez court et donc qui est très, très dense. Moi, c'est un texte où il n'y a rien de trop. C'est-à-dire qu'il y a toutes les richesses qu'on vient de dire là dans ce texte-là. Et c'est un texte qui se lit en deux heures et trois heures. Quoi.
Okay. En peu de temps. Chacun lit à son rythme.
Il n'y a rien de trop. C'est pas du tout...
Et c'est frappant et ça se voit tout de suite en l'ouvrant. Ce qui peut peut-être effrayer, c'est qu'il n'y a pas de paragraphes. C'est-à-dire, c'est des gros blocs de texte.
C'est des chapitres. Ouais.
Et ouais, c'est par chapitre. Il y a très peu de paragraphes dans les chapitres et les phrases s'enchaînent comme ça. Mais on est tenu par le rythme. Ça, le vocabulaire est gentiment. Pas désuet, mais un peu moyenâgeux, parce qu'il dit le damoiseau.
Moi, je me suis posé quelques questions sur la traduction, mais c'est peut-être un peu.
Moi, je ne suis pas germaniste, alors je ne.
Il y a par exemple le mot engueulé qui revient plusieurs fois. Et moi, je ne l'ai pas trouvé tellement au niveau, tellement à propos.
Une forme d'anachronisme.
Après, alors voilà, je me suis demandé si c'était vraiment un parti pris très fort du traducteur.
Wasserman était plutôt réputé pour être un auteur très populaire. Enfin, il était donc ami de Thomas Mann, c'est vraiment ces générations-là, qui le considérait tout à fait, mais par contre, le regardait un peu de haut, parce qu'évidemment, il n'avait pas les mêmes forcément. Parce que, du part, c'est Gaspard Hauser ou La Ferme Aux Yeux, c'était des vrais best-sellers à leur époque. Et donc, effectivement, qui dit best-seller dit, pour en tout cas les auteurs un peu plus. Élitiste ou confiné, un peu, il y avait un regard pas méprisant, mais enfin condescendant. Voilà, donc il est possible que, du point de vue de la langue, c'était pas forcément une langue très. Ça, je sais pas, hein, je connais pas le texte en allemand, mais que c'est pas forcément au départ une langue forcément très littéraire. Par ailleurs, ça se lit très très bien.
C'est plutôt très beau.
En exergue, Jacob Wasserman, ayez le courage d'aller au bout de vos rêves.